Oublié, insista l'apothicaire. Mais as-tu à présent la mémoire de la chose, Jehan? Que voulez-vous dire? Reconnais-tu pour passé la conscience que tu as aujourd'hui de cette pièce? Le visage de l'apprenti s'empourpra aussitôt. Je... Pour en être certain, coupa Andreas, il faudrait que tu puisses affirmer que la conscience de cette pièce a été conservée quelque part en ton esprit. Ainsi, je te le demande, peux-tu l'affirmer? Je ne saurais vous dire, maître, balbutia l'apprenti en se demandant soudain si l'apothicaire ne se posait pas plutôt la question à lui-même. C'est votre maison, après tout. Le maître fit un signe de tête qui voulait dire « c'est bien », comme si cette affirmation eût pu apaiser son propre embarras, ce qui, de toute évidence, n'était pas le cas. Cette histoire de pièces vides se dérobait à l'intelligence. Et s'il était une chose dont Andreas Saint-Loup avait horreur, c'était bien que la raison lui échappa. L'apothicaire semblait réfléchir profondément. « Lambert et Marguerite ont-ils allumé le feu et terminé l'ouvroir ?»« Depuis un bon moment, oui. Nous nous sommes levés avant la première heure. Vous n'avez pas oublié que nous célébrons aujourd'hui ?»« Non, je n'ai pas oublié. Je ne l'ai pas oublié. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas tenir boutique. Es-tu suffisamment vaniteux pour penser que l'univers tout entier, désireux d'honorer la fin de ton apprentissage, puisse offrir un répit passager aux malades de notre bonne vieille capitale ?» L'affliction ne chôme jamais, même un jour de fête. Chapitre 5. C'est précisément en ce moment, mais dans un autre pays, que bascula la vie d'un second homme. Certes, le lecteur ne pourra pas d'emblée percevoir le lien entre ces deux événements distincts, mais si nous menons à bien la tâche qui nous est impartie et qu'il veuille bien lire cette histoire jusqu'à son terme, il découvrira sans doute la secrète causalité de leur coïncidence. Cet autre homme, donc, allait du nom de Juan Hernandez Manao, et vivait à Pamplune, au cœur du royaume de Navarre, qui était alors uni à la couronne de France par son roi Louis Ier, fils aîné de Philippe le Bel et de Jeanne de Navarre. Cet homme, qui devait avoir près de 65 ans, était un sage et il appartenait à une société fort énigmatique dite « Schola Gnosticos », que nous présenterons plus en détail à un point ultérieur du récit. Comme tous les membres de cette confrérie, érudit, lettré et polyglotte, il était homme de science et philosophe passionné par les mystères de la création et par ses arcanes, que certains nomment à tort « sciences occultes ». Son savoir s'étendait de la théologie aux mathématiques, de l'astrologie à la chimie, et il n'était pas un seul domaine des sciences auquel il ne se fût intéressé au moins une fois. On raconte que nombreux étaient ceux qui venaient le consulter, chercher son conseil dans cette obscure maison qu'il occupait au centre de Pamplune, fussent-ils notables ou doctes. Et l'on cite même parfois, parmi ceux qu'il éclaira de son savoir, les noms d'illustres rabbins comme Itzhak ben Menir ou de nobles figures politiques comme Don Guillermo de Navarra. L'homme, en somme, était grandement respecté dans tout le pays avoisinant. Il faisait forte impression, mais ne se laissait pas, lui, facilement émouvoir. Il était de ces figures assurées qui ont que n'exhibe la moindre faiblesse, qui ont réponse à toute chose, et ne quittent en aucun cas le masque de leur sapience reconnue. Ce jour-là pourtant, nous le découvrons assis à sa petite table, le visage livide et les yeux grands ouverts, ses mains ridées posées devant lui parfaitement immobiles, et ce que nous lisons dans son regard ressemble singulièrement à un sentiment de peur. Les deux hommes qui étaient entrés dans sa petite maison quelques instants plus tôt étaient vêtus avec un luxe et une élégance qui ne ressemblaient pas à la mode de Navarre, ni même à celle de Castille ou d'Aragon. Il y avait quelque chose d'exotique et d'inquiétant dans leur figure et dans leur tenue. Et ils se ressemblaient tant qu'on eût dit deux jumeaux. Habillés de noir de la tête jusqu'aux pieds, ils portaient tous deux le même pourpoint à col haut et manches fendues, la même ceinture, la même chemise, et des hauts de chausses noirs eux aussi, assortis à cet étonnant uniforme. Leur carrure laissait penser qu'ils étaient hommes d'épée, mais ils ne portaient visiblement aucune arme. Malgré la finesse de leur accoutrement, malgré